trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Léa Dauphas est avec nous ce soir, chef économiste de TAC Economics. Bonsoir Léa.
Bonsoir Greg.
Véronique Richflores nous accompagne également. Bonsoir Véronique.
Bonsoir.
Vous êtes économiste également, présidente de RF Research. Et Jeanne Asraf-Bitton est avec nous également. Bonsoir Jeanne.
Bonsoir Greg.
Ravi de vous retrouver. Vous êtes directeur de la recherche et de la stratégie de BFT IM. Qu'est-ce que les marchés essayent de nous dire, Jeanne? Je prenais quelques indicateurs pour décrire la situation et c'est vrai qu'on a l'impression qu'on a des marchés aussi calmes que possible dans l'environnement actuel. Le VIX est passé sous le niveau de 12, la volatilité du marché action américain. Les indices sont au sommet, en tout cas pour les marchés développés. Même sur les marchés obligataires, la volatilité a tendance à se calmer un peu. Le move est quand même redescendu de ses niveaux records des derniers temps. Les taux restent canalisés, les spreads de crédit sont serrés. Le pétrole fluctue autour de 80 $, hein, reste relativement calme autour d'un prix qui semble satisfaire tout le monde. De quoi est-ce que cette image est le reflet d'une certaine manière?
Moi, j'aurais dit d'un équilibre instable.
Ah.
C'est-à-dire, ce sont des marchés qui, à mon sens, n'ont pas de grande conviction parce qu'ils sont dans une incertitude extrême. Donc là, à l'instant T, les marchés se disent, ben, y a une désinflation un peu plus lente que ce qu'on espérait, mais après tout, pas très grave. La désinflation immaculée, c'est pas complètement vrai, mais c'est pas complètement faux. Les États-Unis ralentissent, mais un peu. L'Europe a l'air même de vouloir frémir un peu en termes d'activité. Donc, après tout, les résultats, c'est peut-être le plus important. Les marges des entreprises tiennent bien. Donc, ça donne un équilibre dont on sait qu'il est instable. Parce que très difficile de projeter cet équilibre comme s'il n'y avait pas d'effet cumulatif qui allait se faire sentir, ou comme si, si même les banques centrales maintenaient un statu quo en l'état, ça produirait des effets cumulatifs à un moment.
Bien sûr. Donc, si les banques centrales ne font rien aujourd'hui, le niveau de restriction monétaire augmente.
Oui, c'est pas énorme quand même, hein, mais oui, bien sûr. Donc du coup, il y a des effets induits. Donc le marché a bien conscience que c'est un équilibre instable, mais pour autant, ben, un peu à l'instar des banques centrales, il dit ben, on est data dependent, donc on va voir. Honnêtement, quand les entreprises ont commencé à annoncer les résultats du premier trimestre, c'était difficile de penser que ça tiendrait aussi bien. Mais ça tient quand même, en tout cas, remarquablement bien, compte tenu des attentes qu'on pouvait avoir. Donc, il y a des éléments qui font que, ben, globalement, j'ai pas fait un point précis, mais il semble que les investisseurs soient investis, mais un peu de façon prudente. Ben, j'ai pas l'impression qu'ils ont beaucoup envie de bouger, là, pour l'instant.
Ouais. On paye pour voir, on attend de voir ce qui va se passer.
On ne veut pas prendre trop de risques. D'ailleurs, entre guillemets, avoir des volatilités aussi faibles devrait ou pourrait inciter certains gérants à se dire bah, on reste investi, mais on se couvre.
Ouais. Oui, la couverture n'est pas chère.
La couverture n'est pas chère.
Ouais.
Pas toujours le cas.
Bon, un équilibre instable en attendant de voir ce qui va se passer à partir du mois de juin, puisque c'est quand même la séquence baisse de taux qui va commencer en Europe ou qui va se poursuivre, puisqu'on a déjà eu la Riksbank, on a déjà eu la Banque Nationale Suisse, on aura la BCE le 6 juin, peut-être que ce sera plus compliqué pour la Banque d'Angleterre le 20 juin, mais ces baisses de taux, néanmoins, en tout cas en Europe, elles arrivent et pas dans un futur lointain. Elles arrivent là demain, dans trois semaines, oui. Véronique.
Oui, bah, je pense incontestablement, il n'y a plus rien pour retenir la BCE aujourd'hui. Hein. Pas même l'inflation, les résultats économiques sont ce qu'ils sont. On a quelques signes d'espoir que la situation s'améliore, mais dans le fond, la situation quand même est,
oui,
est critique.
Part de loin.
Et comme vous le disiez fort justement, si on ne fait rien, la situation peut devenir beaucoup plus critique, notamment sur le marché immobilier. Hein, marché immobilier, secteur de la construction, qui sont vraiment des secteurs dont on s'en sent bien, qui peuvent basculer, devenir plus négatifs pour l'ensemble de la situation économique. Donc oui, la BCE on a un pétrole. Alors, pétrole à 80-82 $, c'est quand même pas négligeable. C'est ce qui a permis, me semble-t-il, ces dernières semaines, d'avoir un écrasement des taux longs. Et c'est vrai que c'est un niveau qui satisfait presque tout le monde. Ça permet de stabiliser, de ne pas menacer d'un retour des effets de base ou d'une remontée de l'inflation après que les effets de base négatifs aient disparu. Et dans le cas de la zone euro, ça vient vraiment consolider les résultats de la baisse de l'inflation. Donc ça, c'est très important.
Et vous l'écriviez récemment, la corrélation, alors elle peut paraître un peu simpliste ou insatisfaisante, mais la corrélation entre les taux longs et le pétrole, ça reste quelque chose moins, de très efficace.
Exactement. Et aujourd'hui, enfin, ce qui s'est passé depuis le mois d'avril à peu près, quand on a à nouveau eu des déceptions sur la Chine, etc., le pétrole est retombé, et ça a quand même largement aidé à cette détente des taux longs. Donc on a... simultanément, la réappréciation de l'euro. Alors, que manque-t-il à la BCE pour agir ? Rien. Elle va agir, c'est quasiment certain, en juin. À mon avis, elle pourrait très bien abaisser ses taux une deuxième fois en juillet, parce qu'il n'y a pas de raison. Elle aura toujours les conditions pour le faire. Reste toujours la position des plus faucons qui vont peut-être quand même plaider pour attendre le mois de septembre. Donc c'est pas c'est pas certain, mais ça paraît probable en tout cas.
Qu'est-ce que ça va changer, cette première baisse de taux ? Alors, dans la perception, dans la psychologie, mais aussi, j'allais dire, dans la réalité. Enfin, une baisse de taux, il y en aura forcément une deuxième, sans doute une troisième. Bon, on verra ce qui se passe après en 2025, mais ces quelques baisses de taux qui arrivent en zone euro, qu'est-ce que ça change au profil conjoncturel de la zone euro ?
Alors, probablement pas grand-chose, mais dans ce pas grand-chose, il y a des éléments qui sont quand même importants. Je pense que ces baisses de taux sont nécessaires pour stabiliser le marché immobilier.
Ouais.
Ça, c'est vraiment important. Et c'est là, en fait, qu'on voit l'urgence de passer à l'action. Et c'est sans doute un des secteurs qui préoccupe la BCE également. Donc, ça nous permet pas d'envisager une reprise. On aura des frémissements. Il y a un marché qui est très disparate, de toute façon. Donc, il y aura des effets plus spectaculaires, sans doute, dans certains pans du marché, mais ça permet au moins de se stabiliser. Deuxièmement, pour les entreprises, on a d'ailleurs un début d'effet avec une détente des taux longs, mais qui est fragile, qui se fait très lentement. On était encore au-dessus de 3% ce matin ou hier sur l'OAT en France. Donc il faut consolider le mouvement de baisse et je pense que ce premier acte de la BCE devrait aider. Enfin, je le pense d'autant plus que je pense que la Fed ne va pas tarder quand même trop derrière. Si ce n'était pas le cas, je serais sans doute un peu plus.
Il n'y aura pas un écart aussi délirant que ça entre la BCE et la Fed.
Je ne crois pas, malgré les déceptions ou le manque de résultats suffisants sur l'inflation, parce que la conjoncture américaine, la corde commence à s'user. Et que ça va, me semble-t-il, devenir une préoccupation pour la Fed qui va supplanter celle sur l'inflation. Donc, à partir de là, effectivement, d'abord, ça fait plaisir d'avoir une BCE qui s'affranchisse, qui est l'audace, parce que ça ressemble...
Ce sera le 6 juin, C'est une date quand même forte, en symbole, je trouve, le 6 juin.
Et puis, c'est le 6 juin, et puis c'est 3 jours avant les élections, accessoirement. Mais, et le plus étonnant, peut-être, c'est que l'euro pourrait même en profiter. Et je pense que c'est un bon point pour les perspectives européennes, même si il faut relativiser tout ça, et qu'en termes de croissance, j'en attends vraiment pas grand-chose, simplement une consolidation l'assurance que les choses ne vont pas se dégrader de manière persistante.
Est-ce que tout le monde, et notamment dans le marché, est revenu à des considérations un peu plus raisonnables en matière de baisse de taux, de trajectoire de politique monétaire devant nous ? Alors, on partait de cette baisse de taux tout de suite, dès le début d'année 2024, à chaque meeting, puis ensuite on est passé par plus de baisse de taux du côté américain, voire des hausses. Bon, est-ce que tout le monde revient un peu au calme de ce point de vue-là ? Est-ce que les derniers discours de banquiers centraux valident, y compris du côté de la Fed, qui a de la place quand même pour ajuster, recalibrer, rebalancer la politique monétaire américaine, pas en 2026, mais là, peut-être au cours de l'année 2024.
Ah, j'aime bien le mot d'équilibre précaire. Moi, j'avais rééquilibrage, mais je pense que rééquilibre précaire est pas mal. C'est un peu cette notion-là, c'est-à-dire qu'on est passé d'un extrême à un autre avec un sous-jacent macro qui, en fait... Aujourd'hui, assez similaire à ce qu'on avait en décembre quand Powell a fait son pivot, à savoir un scénario, une anticipation de soft landing, ce qu'on voit dans les dernières données de hard data côté américain, des anticipations que l'inflation sous-jacente va diminuer graduellement. Il y a toujours cette persistance dans les prix des loyers qui est un point important. Mais si on s'abstrait de ce côté CPI qu'on regarde, qu'on va regarder le PCE Core, qu'on regarde des sous-composantes sur les salaires, qu'on regarde l'inflation un peu plus large, on a bien ce trend de désinflation qui se met en place. Donc de la désinflation, un soft landing, un ralentissement sur le marché du travail qui rééquilibre. On retrouve de la courbe de Beveridge, on retrouve des courbes de Philips, quelque chose qu'on avait totalement perdu. On rééquilibre un peu partout. Et si je caricature, avec un taux Fed Funds à 5,50 et nous on a une cible d'inflation headline autour de 2,5 en fin d'année, on ne peut pas avoir une Fed qui maintient un taux Fed Funds à 5,50 et avec une inflation à 2,5. Donc il y a de la marge pour décélérer, pour anticiper une Fed, notamment parce qu'il y a des questions d'instabilité financière forte, que ce soit sur le résidentiel commercial. Ou autre, des questions toujours de stabilité qui sont là, certaines poches côté ménage qui sont aussi fragiles. Donc il y a effectivement à la fois un contexte macro qui valide une Fed qui ajuste, en plus du sous-jacent qu'il voudrait, et une Fed qui est surrestrictive. Donc très clairement, pour nous, alors on est même plutôt en septembre, voire une première baisse pour de la Fed, de septembre puis décembre, baisse trimestrielle. À cela s'ajoute en plus, qui est plutôt des questions 2025, des questions de il vaut mieux essayer de retrouver rapidement une situation plutôt neutre, ou en tout cas de rééquilibrer la politique monétaire pour se donner des marges de manœuvre d'un prochain cycle. Nous, c'est cette combinaison de critères qui valide effectivement une baisse de la Fed.
Ils n'ont pas l'air de vouloir y aller rapidement quand même.
Non, mais après, on voit bien
c'est un choix tactique. Est-ce qu'on préfère aller rapidement au taux neutre, comme vous dites, ou est-ce qu'on préfère y aller graduellement avec le petit traumatisme quand même de l'inflation et de l'épisode inflationniste des dernières années?
C'est effectivement ça. C'est alors, la Fed apprend de ses erreurs, c'est-à-dire qu'on a vu trop rapidement. On n'a pas vu assez rapidement l'inflation, on a vu trop rapidement la désinflation, donc on voit bien qu'on est sur une phase d'attentisme. Là où la Fed se met à risque, c'est qu'en fait, elle conditionne beaucoup de son action à un chiffre qui est l'inflation des services, voire même à l'inflation des loyers, et qu'en fait, en sous-jacent ou autre, il y aurait en fait plutôt manière et raison de commencer à ajuster dès maintenant la politique monétaire pour retrouver à la fois quelque chose qui n'est pas trop restrictif compte tenu de l'instabilité, un contexte macro qui satisferait bien d'un assouplissement monétaire. Donc pour moi, tous les critères sont en place. Maintenant, effectivement, attendons de voir cette baisse sur l'inflation des services qui valide ce que fait la Fed. Mais même là, c'est un jeu dangereux de lancer
de se focaliser sur une partie seulement trop
sur une partie
spécifique,
de l'inflation qui est très volatile, sur lequel sa politique monétaire a très peu d'impact.
Moi, Jeanne. Non, j'aurais fait peut-être deux petites remarques. La première, c'est sur la Fed. Toujours trouvé intéressant un de leurs indicateurs qui est leur indicateur de conditions financières globales, dans le qu'ils expriment depuis quelques mois, c'est un nouvel indicateur, ils expriment la dureté ou pas des conditions financières en impact en points de pourcentage sur la croissance à venir.
D'accord.
À aujourd'hui, on est à peine négatif.
Ouais.
À peine.
D'accord.
Donc, il n'y a pas d'urgence pour la Fed.
Les conditions financières sont déjà neutres d'une certaine manière.
Elles sont quasiment neutres. Elles ont été restrictives. On est même passé en zone de soutien parce qu'ils incluent dans l'ensemble des conditions financières, le marché actions,
le marché anticipe que la Fed va baisser ses taux, que les conditions financières se sont détendues.
Oui, mais en même temps, il y a d'autres facteurs. Alors, on parlait d'NVIDIA. Enfin, c'est aussi des éléments qui tirent le marché d'action. Hein. Donc, voilà. Mais c'est intéressant à noter. Ça veut dire qu'il n'y a pas forcément d'urgence. Deuxième élément sur la Fed, elle doit, et ils le répètent tout le temps, hein, ils ont un objectif, alors ça vient justement compenser les deux, ils ont deux objectifs, donc il faut qu'ils maintiennent le plein emploi. Donc ça, ce sont deux éléments qui peuvent faire que, moi, je suis assez d'accord avec le scénario que l'on vient d'évoquer, c'est-à-dire ils peuvent baisser en septembre, ça leur donne un peu le temps d'attendre, de valider, et puis ensuite rebaisser, mais ils ne sont pas dans l'urgence. Et alors,
Et baisser dès cet été, ça donnerait un sentiment d'urgence? En tout cas, toute chose égale par ailleurs.
En tout cas, presque de précipitation, parce qu'il n'y a pas forcément de raison. Et il se trouve qu'on regarde depuis, on en a parlé à maintes reprises, depuis très longtemps, cette inflation des logements. Nos modèles nous disaient quand même qu'elle devait baisser, ce sont des effets de base, qu'elle devait baisser beaucoup plus vite. Donc, elle est un peu à la traîne, un peu étonnant. Et du coup, il y a des éléments, parce que la Fed regarde cet élément-là, elle regarde aussi l'inflation des services, mais c'est vrai qu'il y a des composantes comme les assurances auto, les choses comme ça qui font des distorsions. Mais sur la partie composante logement, maintenant, elle regarde aussi le super cœur. Oui. Donc les services hors énergie en logement. Mais même ceux-là, ils sont quand même assez tendu. Maintenant, je voulais faire juste une toute petite remarque sur la BCE, parce que la BCE, on est tous d'accord et le marché nous le dit, c'est une baisse en juin, et puis le marché nous dit presque 3 baisses d'ici la fin de l'année, donc une en septembre, une en décembre, bon, bref. Mais il y a quand même un élément sur lequel, à mon sens, repose le schéma qu'on a tous en tête pour la BCE, c'est leur prévision sur la productivité.
Ah oui.
Et quand on les regarde, alors moi je les ai...
C'est une hypothèse ambitieuse.
Elle est pas, c'est pas tellement qu'elle est ambitieuse. Enfin, peut-être pour la BCE, pour l'eurozone, elle est ambitieuse. Mais au-delà de ça, si vous regardez leurs projections, quand ils les ont faites il y a un an, il y a 9 mois, il y a 6 mois et en mars, ils n'ont jamais cessé de les revoir en baisse.
Ok, ok.
C'est-à-dire
comme l'inflation, quoi. Enfin, comme l'inflation avant, quoi.
Oui, oui. Enfin, c'est-à-dire que là, et avec des sauts importants.
D'accord.
On est passé de prévision, même pour le T1, prévision de productivité sensible à baisse de productivité. Ouais. Pareil pour le T2 de cette année. Hein. Et donc, j'aimerais voir en juin quelles vont être leurs projections de productivité. Je pense qu'il y a une clé de lecture très importante, parce que derrière la productivité, et on la combine à la modération salariale, et puis ça nous donne un coût du travail, enfin, etc. Mais c'est une clé quand même assez importante, à mon sens.
Ouais. Productivité, il y avait aussi le sujet de la baisse des marges des entreprises. Hein. Là aussi, ça fait partie des hypothèses, effectivement,
qui
doivent accompagner la désinflation.
Ouais.
Sur la BCE, moi, je me réfère, alors c'était la prise de parole du gouverneur de la Banque centrale du Portugal, il y a 2 jours, Mario Centeno. Il dit, l'inflation est en train de chuter en zone euro. C'est, inflation is falling. Et l'inflation chute à un rythme soutenable. C'est la vision d'un gouverneur, celui de la Banque centrale du Portugal. Mais est-ce que dans le match fait BCE, est-ce qu'il n'y a pas pour la Banque centrale européenne la montée d'un risque d'undershooting de l'inflation à un moment ? Enfin, une zone euro qui renouerait avec, en tout cas, une situation macro qu'on a pu connaître pendant un cycle assez long. Dans les projections de la BCE, on voit des marques trimestrielles de l'inflation cœur ou headline qui sont à un 9, voire un 8, je crois, même sur un trimestre au cours de 2025.
Oui. Oui, oui. Et c'est assez récent d'ailleurs, parce que finalement, on avait une convergence des résultats d'inflation entre les États-Unis et la zone euro, les services en début d'année, des choses qui semblaient assez proches, avec des niveaux différents, mais la même logique. Et là, depuis 2 mois, on a vraiment des signes de ralentissement très fort de l'inflation en zone euro.
Ouais.
Donc, c'est une différence très importante. Je pense qu'il a marqué les dirigeants européens aussi et la BCE ces derniers temps. Et là, je vais peut-être laisser la parole.
Oui, oui,
vous êtes le relais.
Oui, oui. Non, mais parce que voilà, inflation is falling, c'est pas un discours qu'on entend du côté de la Fed et même pas du côté de la Banque d'Angleterre. C'est-à-dire que la marque d'inflation britannique ce matin, quand même un gros palier à la baisse. Mais comme vous dites, le compte n'y est pas, Véronique.
Le compte n'y est pas. Au Royaume-Uni, les hausses mensuelles du sous-jacent, elles sont complètement hors normes pour revenir à 2%. Hein, donc,
d'accord.
C'est pas du tout crédible. D'accord. En zone euro, on commence à avoir. On doutait un peu parce qu'il y avait cette période du printemps qui est toujours challenge. Il y a les prix des paquets,
les vacances de Pâques, etc.
Mais non, les derniers chiffres clairement nous disent ça baisse. Là, ça accélère à la baisse, effectivement. Et on va probablement.
Mais c'est un point de vigilance quand même, ça. Ça doit être un point de vigilance pour la BCE qui pilote les prix.
Le contexte n'est pas le même.
Non.
Nous, on a fait de la restriction budgétaire ces derniers trimestres en Allemagne et on commence à en faire sérieusement en France, aux États-Unis. Et on n'en est pas là.
Non.
Plusieurs points là-dessus. Le premier, un facteur qui est important, on venait sur les projections de croissance en zone euro. On utilise des modèles de machine learning donc qui disent quelles sont les variables importantes à regarder pour regarder les trajectoires zone euro. Effectivement, à très court terme, les questions associées sont principalement les questions de confiance en zone euro. Et donc, même si on a un peu cette baisse de pouvoir d'achat, l'avantage de la BCE à agir amène aussi ces regains de confiance et donc peut créer un peu cette dépense, cette épargne, cet excédentaire. Donc ça nous amène sur le scénario 2024 qui est plutôt favorable, même si pas encore exceptionnel, zone euro, on va dire 0,7% de croissance, en montant un peu les projections sur cette année. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que 2025, il y a des seuils très forts qui sont liés aux perceptions d'inflation des ménages. Et donc, cette scénario qu'a le marché aujourd'hui, de dire la zone euro se reprend, va bien, réaccélère quelque part en 2025, est aussi associé au fait qu'il n'y ait pas de résurgence de l'inflation. Donc, dans un sens, une inflation...
Ça prend du temps pour que, pour que les ménages, ou les agents économiques, aient la vraie perception d'une inflation qui a baissé après l'épisode qu'on a connu.
Exactement. Ça prend du
temps. Ça prend du temps.
Et ce qui est assez intéressant, c'est que traditionnellement, c'est plutôt des modèles qui mettent en avant la croissance US, le commerce ou autre. Et là, c'est vraiment du domestique, zone euro, perception de l'inflation. Donc, ce côté désinflation, on ne va pas s'en plaindre. C'est aussi ce qu'on a tous derrière le scénario. Pourquoi la zone euro va un peu mieux ?
Bien sûr.
Maintenant, c'est où est-ce qu'on place le curseur ? Moi, j'ai tendance plutôt à mettre des scénarios de séquence. C'est-à-dire 2024, début 2025, c'est plutôt le post-Covid. On retrouve, on abaisse en fait tous ces facteurs qui pesaient. On enlève les mesures one-off. La question des services, ça ralentit. Par contre, et on arrive effectivement, on a plutôt des scénarios où on est autour de 2 sur l'inflation en zone euro. On pourrait même aller chercher un peu en dessous avec l'inflation alimentaire, par exemple. On a toujours un biais un peu fort sur l'alimentaire, mais...
On revient proche, mais inférieur à 2, quoi.
On est autour de 2. On est encore un peu légèrement au-dessus. La question se pose plus pour ensuite. Et donc là, c'est plutôt les scénarios, mais qui sont du structurel, plutôt 2025-2026. Le sous-jacent de la prochaine décennie est un sous-jacent inflationniste. Donc c'est les niveaux des salaires, même s'ils décélèrent, on reste à des niveaux élevés. Les contraintes, ce qu'on appelle les éléments attendus mais imprévisibles, donc les chocs externes, les guerres, les problématiques environnementales. Donc tout ça crée des facteurs permissifs d'une inflation plus élevée à terme. Donc il y a vraiment cette histoire de séquence. À court terme, oui, l'inflation va continuer de décélérer.
D'accord.
À horizon moyen terme, beaucoup plus compliqué.
Ma question, est-ce que ce scénario que vous décrivez, est-ce que ça permet à une banque centrale comme la BCE de mener un vrai cycle de baisse de taux qui nous ramène au taux neutre, ou est-ce que c'est simplement quelques baisses de taux pour le temps de se réajuster ?
Je mettrai les mêmes conditions. C'est déjà, moi, je l'ajuste à la Fed. C'est-à-dire que la BCE arrive en avance, mette en place une baisse de taux avant la Fed, oui, à supposer que la Fed suive avec deux ou trois trimestres maximum de décalage. Donc déjà, il y a cette logique, il faut qu'on reste dans cet environnement des inflations, soft landing, pour avoir la BCE qui continue. Ensuite, est-ce qu'elle peut aller bien loin ?
Le jour où la Fed s'arrête, la BCE s'arrêtera, quoi.
Et en tout cas, il n'aura pas des décalages longs entre les deux banques centrales.
J'entends. Ça m'intéressait, là, des baisses de taux, je reviens à la question, qu'est-ce que ça génère en zone euro, alors sur l'activité économique, mais aussi sur les flux de marché, Jeanne ? Est-ce que quelques baisses de taux, ça suffit à rendre les produits monétaires, les produits de court terme, moins intéressants pour des investisseurs ? Est-ce que ça peut pousser une partie du stock accumulé massif, quand même, sur ces produits de court terme ou monétaires, vers d'autres actifs en termes d'investissement, vers de la consommation ?
Je n'irai pas forcément jusqu'à la consommation, ce qui est un peu d'une autre nature, parce que là, ça va être l'arbitrage entre consommation et épargne qui va être en jeu. Et cet arbitrage-là...
D'accord. Restons sur l'investissement, alors.
Ouais. Il a un élément de confiance qui est évident et qui peut jouer et qui va booster la consommation plutôt que l'épargne. Mais en général, les gens vont pas puiser dans les placements monétaires pour consommer. Voilà, on va
d'accord.
dire... C'est pas comme ça que ça fonctionne. En revanche... je pense qu'il y a un intérêt, en tout cas c'est presque on va dire une opportunité presque asymétrique à se positionner sur du crédit court, sur ou de l'obligataire court, on va dire, si on veut se prémunir contre
ces baisses de taux.
Oui, absolument, et alloquer.
Mais c'est en cours, ça se prépare. BFCIM est un spécialiste du monétaire, dire les choses clairement.
Oui, Jeanne. C'est vrai, mais c'est pas complètement là.
D'accord.
On a vu déjà des choses, notamment sur des entreprises, mais ça, c'est presque un mouvement récurrent.
D'accord.
Quand elles doivent payer les dividendes.
Mais vous voyez pas d'anticipation chez vos clients de ce que va faire la BCE. Il n'y a pas urgence à sortir des produits monétaires aujourd'hui.
C'est pas tant que ça. Mais
d'accord.
Quand même un peu, forcément.
Tout le monde y réfléchit.
Tout le marché monétaire, et quand vous regardez l'ensemble, il y a eu des flux sortants, bien sûr. Après, il faut identifier de qui viennent les flux sortants. C'est vrai qu'il y a une partie qui vient d'une réallocation, mais il faudrait que l'alternative, vous savez, c'était le fameux TINA, là.
Bien sûr.
There's no alternative. Aujourd'hui, il n'est pas complètement évident, parce que l'attractivité des actions, on l'évoquait il y a assez longtemps, elle est quand même en question. Parce qu'il y a des questions. Bon. Et du coup, et l'attractivité des marchés obligataires, oui, mais avec le mais, et notamment quand on regarde à plus long terme, si on regarde le potentiel de décélération de l'inflation ou à l'inverse le potentiel de viscosité de l'inflation à terme. Donc tout ça fait que on voit quand même, on a des anticipations que les taux longs vont baisser, mais pas tant que ça.
Ouais.
Une certaine prudence. C'est un mouvement qu'on voit, mais qui n'est pas encore très important. Alors, il est possible que la décision du 6 juin booste les anticipations, mais j'ai un peu doute. En tout cas, il faudra regarder ce à quoi correspond cette baisse de la BCE.
Au quiche cut.
Ça pourrait.
C'est ça que tout le monde attend. C'est une baisse de taux qui sera accompagnée d'un discours. Alors, forcément, plus accommodant puisqu'on a baissé les taux, mais qui ne va pas vouloir ouvrir les vannes trop fort tout de suite, en tout cas, de ce que je comprends quand j'écoute certains.
Oui, elle nous dira quand même qu'ils ont fait le boulot et qu'ils ont réussi.
Ah, oui, c'est ce qu'elle dit déjà. Donc, la garde, l'inflation est sous contrôle. Ça y est, voilà. C'est fait. Oui, effectivement. Ouais. Je sais pas, oui, sur les banques centrales. Non, mais ça m'intéressait votre point quand même sur le dollar et sur l'euro. C'est vrai qu'on a effacé cette baisse de taux de la Fed. On est passé par zéro, voire des hausses de taux dans la conversation de marché, bien sûr. L'euro-dollar n'est pas retourné à la parité pour autant. C'est quand même un soulagement pour la BCE, j'imagine, de voir une stabilisation, voire même une remontée de l'euro contre dollar avant des baisses de taux.
Je pense que c'est un point important, même si, bien évidemment, c'est pas le sujet. Rappelez-vous, quand on était il y a 2-3 mois, ou un peu plus peut-être, en phase là de décélération, de baisse de l'euro-dollar, on se disait là, envisager que une baisse des taux de la BCE isolée, il y avait à l'évidence un risque que ça accélère beaucoup plus, à un moment donné où par ailleurs le marché des matières premières était un petit peu sous tension, etc. Donc c'était clairement un environnement qui n'était pas favorable, qui ne redonnait pas de marge de manœuvre. Là aujourd'hui, au moins temporairement, et du coup ils vont pouvoir tester tranquillement, j'ai envie de dire, quart de point. Ça. Ils verront bien ce que ça fait sur l'euro-dollar. Avec un peu de chance, d'autre côté, côté américain, ça va se gâter encore. Et donc l'euro pourrait se réapprécier un peu. Et très bien. Et là, ils sortent gagnant quelque part. Et vraiment, je pense que j'ai quand même l'impression que ce scénario-là est aujourd'hui le plus probable. Après, on verra, ça peut varier très vite en fonction des données, mais il me semble qu'il y a une bonne chance que ce soit ça. Après, je reviendrai bien sur, je trouve, la notion d'équilibre instable, là où on la voit le mieux, c'est que finalement, on est dans un environnement complètement délirant, où on a d'un côté l'or et les précieux qui culminent, record, et qui ont toutes les bonnes raisons de continuer. On les comprend tous, non ? Et de l'autre côté, des marchés qui effectivement rejoignent des records, et en plus, sur la base des valeurs cycliques essentiellement, même si aujourd'hui on ne sait plus trop à quoi correspond.
Les cycliques ont pris de l'avance.
Là, on a quand même un environnement qui nous met bien face à cette contradiction. Et on se dit, en tant qu'investisseur, on peut pas ignorer l'or, forcément, ou les précieux, mais on peut pas rester en dehors du marché aujourd'hui. Et finalement, les deux sont cohérents, parce que effectivement, le risque géopolitique, le risque financier, etc., fait que tout le monde est à l'affût pour protéger l'ensemble. Et c'est ce qui explique, à mon avis, cet environnement très instable, fondamentalement instable, mais sur lequel on peut prendre du risque. Et c'est là, je pense que c'est extrêmement... ça chamboule complètement tous les critères, et y compris les critères de sélection de valeurs ou de secteurs, parce qu'on peut même plus vraiment parler de secteur. Il faut presque aller sur...
On voit, Walmart au sommet, Target qui baisse de 10 sur sa publication, et les exemples sont nombreux comme ça au sein de chaque secteur.
Ça complexifie énormément l'ensemble, mais je rajouterais par ailleurs qu'on a quand même un marché sur lequel les opportunités d'investissement en dehors des actions... enfin des actions européennes ou locales, sont quand même un peu réduites. On va beaucoup moins investir dans les émergents, etc. On va plus investir sur l'immobilier. On a une épargne élevée en Europe et des effets richesse qui commencent également en Europe à être très substantiels. Donc tout ça permet au marché de tenir. Enfin, moi, J'ai rarement optimiste sur les marchés, mais alors là, j'ai jamais été aussi, entre guillemets, confiante, sans avoir les
éléments. Comment pas être boule, quoi.
Oui, on a quand même un espèce d'alignement des planètes pour les marchés. Action, dont acte, sera peut-être mis en question, il y a de fortes chances, par des éléments qu'on a du mal à prévoir, peut-être, je sais pas quoi, mais en tout cas, aujourd'hui, dont acte.
Alors, je reviens à votre point sur les précieux. Je sais pas si j'ai bien compris pourquoi l'or battait aujourd'hui, là, maintenant, des records. Enfin, l'or a monté quand les taux réels remontaient, par exemple, aux États-Unis. Alors là, peut-être que les taux réels, effectivement, rebaissent un peu, mais l'environnement géopolitique instable, oui, alors évidemment, depuis 2022, on est entré dans quelque chose de nouveau, de ce point de vue-là, mais pourquoi là maintenant ?
L'environnement géopolitique instable, l'hyperliquidité, si on traverse aussi bien cette période de remontée des taux, c'est juste que les taux de liquidité sont astronomiques.
Les mêmes stocks, GameStop et l'or, c'est aussi un peu la même histoire.
Et oui, et la perte de crédibilité des banques centrales, parce que quand même, qu'elles n'aient pas les moyens de lutter contre ces excès de liquidité pour des raisons valables, sans doute. Mais,
ou qu'elles ne
souhaitent
pas.
Oui, qu'elles ne souhaitent pas.
Évidemment. Et on peut se mettre à leur place et les comprendre.
La stabilité,
mais
hein,
ça a un coût, bien évidemment, sur la valeur, leur capacité à préserver la valeur des monnaies, donc l'or, donc les cryptos. Et les cycliques, parce que les gouvernements sont derrière aussi et que les banques centrales ne veulent pas gêner les gouvernements, surtout. C'est pour ça que d'ailleurs, on va ralentir le rythme de baisse du bilan.
Ouais,
quand même assez surprenant.
Un côté, toujours un peu la pédale sur le frein, on commence à gérer la liquidité.
Les cycliques qui montent et de l'or et des précieux qui s'envolent.
À propos de considérations géopolitiques ou politiques, alors est-ce que vous avez un modèle d'IA générative que vous entraînez qui s'appelle Albert, c'est ça,
oui.
Léa? Non mais est-ce que vous lui avez posé la question? Il répond à des questions économiques, Albert, hein, c'est ça?
Alors, Albert signifie AI Language for Boosting Economic Research, c'est une IA générative qui fonctionne à l'image de ChatGPT alimentée avec des aliments macro et financiers pour répondre à n'importe quelle question d'économiste ou de financier, donc c'est un assistant économiste, premier assistant économiste virtuel. Albert fonctionne sur les news, les publications que chacun peut faire et analyse. Donc, il fait juste notre travail en analysant un ensemble énorme de données ou autres. Donc, il ne fait pas mieux que nous sur ce sujet-là. Pour faire ces outils-là, c'est de l'IA, mais pas générative. En fait, maintenant, l'IA devient un peu désuète. C'est vraiment de l'IA. Et donc là, on a effectivement trois combinaisons d'outils. Des premiers outils qui sont des sismographes. Donc, on prend l'ensemble des données utilisables sur les pays, les zones, les secteurs, et là on regarde si on a des rappels et des notes. Deuxièmement, c'est nécessairement la mise en place de stress tests, c'est-à-dire qu'il faut utiliser les scénarios et valider les stress tests. Et puis troisièmement, c'est aller se projeter un peu plus loin. Et en fait, dans cet environnement où le conjoncturel se fait en fait basculer avec du structurel, que ce soit la révolution de l'IA, les problèmes environnementaux, les problèmes géopolitiques, c'est trois plaques tectoniques qui se rencontrent au même moment.
Capter les disruptions, quoi, les points de retournement.
Et donc ça, c'est du stress test. Et tout ça, en fait, c'est malheureusement que de l'IA.
D'accord.
Pas génératif.
Que de l'IA. C'est déjà suffisant, parce que ma question étant, est-ce qu'on peut lui demander à Albert de nous faire un peu Biden, Trump, risque, opportunité, et qu'est-ce qu'il en ressort? Est-ce que c'est pas si éloignés l'un de l'autre, parce que de toute façon c'est les États-Unis et que c'est America First, quelle que soit l'administration, ou est-ce qu'au jeu des différences, il y a quand même des points de différence majeurs, avec des impacts, pour les marchés?
Oui, alors, les deux. Il y a, dans l'ensemble, un environnement plus inflationniste, associé à plus de dépenses budgétaires, et je mets de côté tous les aspects sociaux.
Ça, c'est vrai pour les deux?
Ça, c'est vrai pour les deux.
D'accord.
La différence qu'il y a, donc là, c'est pas de l'IA générative, ça va être juste des petits modèles statistiques, où en fait, il y a trois gros impacts des plans plutôt Trump versus Biden, qui sont les tarifs, donc qu'est-ce que ça implique, la baisse des taxes, et puis l'immigration, le choc sur l'immigration. Donc ces effets-là combinés, quel est l'impact? Donc ça, c'est des petits modèles beaucoup plus simples, qui varient. Donc nous, on a fait une sorte de baseline où si on prend, alors pas la hausse des tarifs à hauteur de 10%, mais plutôt quelque chose de médian, on met de côté les questions immigration, on sort cette hypothèse-là, parce que c'est quand même sortir 3% de la force de travail du marché américain hors. Donc là, on l'a mis de côté. Et on poursuit certaines baisses de taxes. Là, c'est plutôt des effets en termes de croissance, alors qui vont dans des ranges entre moins 0,5 et 1. Donc c'est un plan Trump un peu light.
D'accord, d'accord.
Mais par contre, aussi une reprise de l'inflation, ça, à peu près les parallèles, c'est plus 0,6 d'inflation, moins 0,6, moins 0,7 de croissance, dans un horizon 3 ans. Par contre, en stressant ces scénarios, là, on va très vite dériver sur des scénarios extrêmes. Si on met les tarifs tels que Trump les a dit, d'accord, et le choc côté force de travail, là, c'est vraiment des chocs significatifs. On pense...
Donc, il y a dans un Trump extrême, en tout cas, qui fait tout ce qu'il
des
dit...
Des chocs significatifs.
Et donc, une Fed qui réviserait, j'imagine, considérablement
alors,
sa copie.
Avec la question de qu'est-ce qu'on fait de la Fed. Il y a quand même un outil fort de remise en cause de l'indépendance de la Fed. Alors, encore une fois, comment on lit Trump? Est-ce qu'on part du principe qu'il est pragmatique et donc, si le marché vient anticiper une remise en cause de l'indépendance de la Fed et de la crédibilité de la Fed, avec tout ce qu'on peut envisager côté taux, dollar ou autre, on aura une marche
arrière
ou pas?
Oui.
Ou est-ce qu'au contraire, on force ce trait-là?
Mais... Il fait les deux, quoi.
Voilà. Et là, c'est vraiment un peu des deux. Là, c'est du stress test. Ouais. Là, c'est vraiment ces scénarios-là.
Véronique.
On peut mettre la Fed sous cloche. On ne mettra pas les marchés sous cloche. Donc, si la Fed se voit limitée dans sa capacité à faire son job, c'est sur la partie longue de la courbe que ça se verra. Hein. Et c'est là que l'activité est la plus sensible. C'est peut-être là qu'on va payer...
Dans un environnement inflationniste, dans un environnement incertain. Années, donc effectivement, de toute façon, c'est un environnement haussier taux, inflationniste, beaucoup plus incertain, et avec beaucoup plus de polarité.
Ouais. Qu'est-ce que ça vous inspire déjà? On y réfléchit un peu quand même, j'imagine. C'est dans 6 mois, mais ça va être
d'abord,
quand même...
D'abord, le scénario, je pense, doit être un peu plus peut-être précisé. C'est-à-dire que pour moi, ce qui a été évoqué, c'est valable dans un scénario Trump avec un gouvernement divisé. C'est-à-dire la Chambre aux démocrates et le Sénat aux républicains. Parce que ça limite quand même les marges de manœuvre.
Certes.
Alors ensuite, sur la Fed, de fait, cette année, il faut quand même le réaliser, la Fed a enregistré des pertes. Et donc, au lieu de remettre les 100 milliards par an qu'elle remettrait au Trésor, eh ben, c'est l'inverse. Donc, elle a perdu, en termes de rapport de force, ben, quand vous devez faire absorber des pertes, ce n'est pas tout à fait pareil que de remettre, je n'ai plus le chiffre exact en tête, mais c'était de l'ordre de 100 milliards.
Ça affaiblit quand même, vous dites, parce qu'on va toujours expliquer qu'on peut avoir des banques centrales en perte, en fonds négatifs,
mais bien sûr.
D'accord, mais dans la vraie vie, dans la réalité,
vie, même,
et dans le rapport de force politique.
Oui, je pense. Alors, je ne sais pas si vous avez à un moment, Trump a même évoqué le fait qu'il allait être président de la Fed. Alors, beaucoup ont ri, pensant que c'était juste, voilà. Et certains à Washington, qui regardent ça quand même d'assez près,
ah,
disent que c'est pas complètement un risque à écarter complètement. Dans son esprit, c'est pas complètement absurde.
Il y a un chemin possible dans le droit ou la Constitution américaine
Alors là, j'ai pas creusé le débat,
d'accord,
donc je me permettrai pas.
Non, mais...
Donc, il y a un élément dans cette volonté de chapeauter la Fed, c'est qu'une des différences, à mon sens, effectivement, il n'y a pas de différence sur les déficits publics qui seront énormes, et les deux candidats ont dit on les laissera en l'état. En revanche, il y a un élément sur le fait que Trump souhaite des taux bas et un dollar faible. Donc il y a aussi, au plan des marchés financiers, peut-être à jouer sur la devise.
Ouais.
Parce que là, il souhaite affaiblir la devise.
Bon, on verra sur
donc
les déficits.
C'est très clair.
Je suis d'accord, mais le message est quand même pas le même. Trump, toutes les baisses de taxes Trump seront prolongées, amplifiées,
voilà,
etc. Pour
mais
tout le
monde. Côté,
Biden, il peut quand même aussi jouer sur la fiscalité, notamment sur certains catégories de ménages, d'entreprises, etc. Ça fait partie des combats aussi menés par l'administration Biden.
Tout à fait.
En termes de crédibilité ou de sérieux budgétaire, c'est peut-être pas non plus tout à fait. Ça renvoie pas tout à fait la même image.
Les estimations que j'ai vues sur les plans d'un côté et de l'autre.
D'accord, c'est kiff-kiff à la fin.
C'est
pour
pas
le
les mêmes postes qu'on bouge.
Non.
Mais au final, c'est pareil.
Le déficit est le même.
Bon, d'autant qu'il ne faut pas oublier qu'à chaque fois qu'on baisse les taxes, les impôts, etc., on stimule l'activité.
Par
rapport au pourcentage du PIB, ça joue quand même un peu.
Évidemment.
Donc au final, les estimations que j'ai vues ne diffèrent pas de façon radicale. Mais attention, l'aspect dollar n'est peut-être pas un aspect inintéressant.
Bon. Biden, Trump, je ne sais pas quelle réflexion ça vous inspire à ce stade, Véronique, mais enfin, voilà, on s'amuse à réfléchir au-delà du 5 novembre, et est-ce que la Fed baissera ses taux en décembre, et combien de fois en 2025 Bon, jusqu'au 5 novembre, on peut en discuter, au-delà, c'est vrai
au-delà, que c'est un passer, peu plus... Il va falloir passer à des choses plus sérieuses, et je pense qu'effectivement, le scénario d'une victoire de Trump dans le contexte actuel, géopolitique actuel, compte tenu des sous-jacents inflationnistes et du changement de régime de l'inflation dans lequel on est, d'abord créer beaucoup énormément d'incertitudes. Hein, moi, dans mon tableau de prévision, j'ai coupé en disant écoutez, là, il y a potentiellement Trump, je ne peux pas vous dire. Moi, je ne sais pas faire. Il y a des choses, il y a des moments où on ne sait plus faire en termes de prévision, de taux d'intérêt, etc. Je peux, voilà, j'ai mis des chiffres, hein, mais franchement, donc, parce que ça devient d'un niveau de complexité extrême. Si on intègre, et moi je me soucie pas, en fait l'arrivée de Trump me pose pas trop de questions pour l'économie américaine.
Ah non.
C'est sa résonance globale qui est beaucoup plus complexe et qui risque d'être beaucoup plus impactante, hein, et peut-être au premier rang pour l'Europe. Ouais. Donc dans un contexte géopolitique également extrêmement sensible. Donc voilà, maintenant je pense qu'on a encore un petit peu de temps pour affiner et essayer de défricher ce que ça pourrait donner.
C'est intéressant parce que le marché à ce stade semble pas jouer quoi que ce soit, ou en tout cas s'alerter quand Biden monte un peu les tarifs, etc. Ça provoque pas pour l'instant de réaction au marché.
Oh, mais Trump, ça, le marché avait finalement
ça a
bien.
Été, oui.
Donc on sent bien que c'est dans les esprits, ouais. Hein, et des analystes aussi, forcément. Et je pense qu'il va falloir aborder la question de manière un peu plus large, puis, certainement beaucoup plus large et peut-être plus complexe.
Puis il y a un côté de l'imprévisibilité. On la connaît bien chez Trump, dans ses sautes de... On peut pas dire d'humeur, mais enfin bon. Et on a une visibilité sur la santé de Biden aussi. Ouais. Faut quand même pas... On peut pas l'écarter. Hein.
Non, non.
C'est pas quelque chose de... Donc faudra bien regarder qui est le vice-président aussi.
Oui, bon, on n'en est pas encore là, mais effectivement,
non, mais c'est un sujet... C'est un sujet qui est déjà sujet
majeur.
Aujourd'hui. Hein.
Oui, oui, bien sûr. Ce sera l'élection de toutes
les élections. D'où l'imprévisibilité qu'évoquait... à l'instant, Véronique.
Oui, oui. L'équilibre instable.
Et l'équilibre instable. Bon, ben, c'est parfait.
La et la productivité, parce qu'in fine, c'est sur la productivité qu'on va juger l'efficacité de ce qu'a fait Biden et la capacité d'économie américaine à rembourser ses dettes demain.
Est-ce que c'est une vraie tendance de gain de productivité
qui est en place? Dès que la productivité ou que la croissance a ralenti,
ça
donc la productivité a ralenti, le dollar a payé. Là, on a commencé à plus vouloir du dollar.
Merci à vous trois, mesdames, d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Jeanne Assraf-Bitton, BFTIM, Léa Dauphas, TAC Economics et Véronique Richelorès, RF Research.